Matière à penser, Frédéric Borms.
Matière à penser, ce soir notre troisième rencontre autour de l'animal humain. Animal humain, pendant longtemps il a été question de savoir si l'humain était un animal ou un animal comme les autres, s'il fallait établir une rupture ou une différence entre l'animal et l'humain, entre les animaux et les humains. Aujourd'hui, peut-être que la question ne se pose plus ou la question se pose autrement, il y a une forme d'évidence. Mais que partageons-nous aujourd'hui entre les animaux et les humains? Comment les penser ensemble? Comment survivre ensemble? Ce soir, nous allons évoquer notre destin commun. Animal humain, ce soir avec Gilles Boeuf, professeur à l'université Paris-Sud, ex-président du Muséum et aujourd'hui président et acteur de nombreuses instances sur la biodiversité, sur justement les relations entre l'animal et l'humain. Gilles Boeuf, est-ce que la présentation que je viens de faire vous paraît juste? Est-ce que, en effet, on peut aujourd'hui se passer de réfléchir trop sur la différence entre l'animal et l'humain? Est-ce qu'on peut commencer enfin à envisager notre destin commun?
Bien sûr, c'est essentiel. Vous savez, tous les travaux récents qui sortent maintenant montrent que le vivant est totalement imbriqué. Alors bien sûr, d'abord au niveau cellulaire, nous sommes tous, on héberge des bactéries, alors c'est pas des animaux, mais les animaux hébergent les mêmes bactéries. Et nous sommes vraiment une fusion incroyable, extrêmement entrelacée entre ces micro-organismes et nos cellules humaines. Alors c'est ça qui est paradoxal, parce que plus on avance là-dessus et plus on se rend compte qu'on est une construction biologique, l'humain, et puis plus on croit que notre technologie va nous sortir du système et qu'on ne répond plus aux lois écologiques. Et ça, c'est profondément choquant. Nous sommes humains dans notre physiologie, c'est évident, bien sûr.
Oui, mais par humain, qu'est-ce qu'il faut entendre justement à ce moment-là, Gilles Boeuf? Est-ce qu'il faut chercher à distinguer l'humain par une caractéristique
Je vous donne un exemple.
Biologique, vous êtes biologiste.
Hein. Oui. Nous sommes en mai 1864. Cette nuit-là, Toulouse est illuminée par une pluie d'étoiles, des météorites qui tombent sur Toulouse, en quantité. Et un paysan va ramasser un fragment de météorite de 11 kilos, qui est maintenant dans nos collections, qu'on va étudier récemment. Jamais un animal n'aurait fait ça. Et quand je regarde, par exemple, les grottes ornées, vous allez à Chauvet, vous trouvez effectivement des crânes d'ours sur des stalagmites. Alors, par hasard, un animal peut en pousser un sur un stalagmite, mais pas tous systématiquement sur des stalagmites. Donc, l'humain a des comportements totalement humains qu'un animal n'aura jamais. Maintenant, dans notre physiologie, notre façon d'être et de vivre, nous sommes profondément humains. Pourquoi est-ce que nous avons tous les deux, Frédéric Worms, 142 millimoles de sodium dans notre sang et 105 millimoles de chlorure?
Vous en savez plus sur moi que moi-même.
On est pareil tous les deux. C'est l'océan ancestral. On sort du même moule. On raconte une histoire commune. Et l'humain a toujours a toujours été extrêmement lié aux animaux. Le problème actuel que l'on vit aujourd'hui et qui me préoccupe très considérablement, c'est le fait que le vivant sauvage animal s'en va et que le vivant animal domestique explose. Ah, c'est une vraie question, effectivement. Nous sommes en train de sélectionner des animaux qui coévoluent avec nous. Le chien a incroyablement coévolué avec l'humain. Quand on fait des tests d'intelligence, le chimpanzé est supérieur au chien. Mais sur des tests de connivence, le chien est supérieur au chimpanzé.
Alors les choses sont peut-être en train de s'inverser, justement, de façon grave, Gilles Boeuf. Et là, il y a une responsabilité des humains, c'est de ça que je voudrais parler avant tout avec vous ce soir. Mais pour revenir un instant, vous disiez, on peut reconnaître l'humain à certaines de ses traces. On voit tel rassemblement de parties animales, tel reste d'outils, de techniques aussi dans une grotte. Et là, on se dit, c'est l'humain. Donc, il y a eu de l'humain. Donc, il y a eu des seuils dans l'évolution qui ont fait qu'on est passé, qu'il y a eu l'espèce humaine à émerger d'une façon à certains moments de la planète, de l'histoire de la planète.
Par sa technologie.
C'est Homo faber, comme
voilà,
on dit.
Voilà, c'est ça. Nous sommes Homo faber. Ce que dit Dominique Bourg et puis Edgar Morin aussi. L'humain domestique le feu. Ça va être vraiment un épisode absolument fantastique. Il y a à peu près 1,5 million d'années en Afrique. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il va tenir les prédateurs à distance. Plus tard, il pourra sortir d'Afrique aussi avec ce feu puisque on passe par des grandes vagues de refroidissement terrible. Tous les 100 000 ans, il fait moins 40. Donc, heureusement.
Donc, il y a déjà eu des épreuves climatiques.
Tout le temps. L'humain a toujours été lié au climat qui changeait. Tout le temps. Il sort d'Afrique chaque fois que le Sahara n'est plus un désert et que la péninsule arabique reverdit. Pour revenir à nos considérations animales, nous faisons partie d'un système. Alors au départ, bon, c'est vrai qu'on est on est tout noir avec des poils et puis tout petit et puis on a grandi un petit peu, on a perdu nos poils, on a éclairci. Hein.
On s'est diversifié, mais tout en restant tous des humains.
Complètement.
C'est-à-dire ce ces diversifications, il faut quand même le rappeler parce qu'il y a toujours aussi ces tendances à briser l'unité de l'espèce au fond, alors qu'elle reste totalement.
Je prends simplement un site européen, Atapuerca, Burgos en Espagne, à la Cima de los Huesos, il y a eu 7 espèces d'hominidés sur 2 millions d'années. Mmh. Et à 27 000 ans, Néandertal s'en va, il reste plus que Sapiens. Et au moment où Sapiens arrête de bouger, il va commencer à domestiquer des espèces sauvages et à inventer l'agriculture avec des plantes qu'il va donc domestiquer également, il reste plus que Sapiens à ce moment-là. C'est nous qui nous sommes appelés comme ça, en plus, bien sûr, il faut bien le voir. Hein.
Mais justement, à cause de ces traces de la technique entre Faber et Sapiens, on est passé trop vite, sans doute, de Faber à Sapiens, de la technique à la
science. Nous sommes
science.
Toujours Faber.
Mais voilà.
Nous sommes toujours. On n'est pas Sapiens.
C'est cette unité fondamentale qui est importante, malgré tout. Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes tous des techno...
Complètement. Vous savez, pour moi, l'une des principales inventions qui va sortir l'humain de sa seule condition, je dirais animale, pour faire autre chose qu'un seul animal, c'est l'invention de l'arme de jet. Je peux tuer à distance. Mmh. Ça va tout changer. Le propulseur, la lance, l'arc et la flèche vers 8000 ans. Et là, ça va tout changer parce que les grands félins qui n'étaient pas très inquiets devant ce petit animal qui faisait 40 kilos tout mouillé, va commencer à avoir de l'intranquillité. On a pas mal écrit là-dessus. Et c'est vrai que je peux être tué à distance, je peux tuer
une forme de prédation.
Un prédateur, bien sûr.
Les proies ne s'attendaient pas.
Absolument pas. Absolument
à distance,
pas.
Comme
absolument
ça.
Absolument pas. Le corps à corps n'est plus là. Et si je vais jusqu'au bout avec l'invention de la poudre noire au XIIIe siècle, qui va être aussi utilisée ensuite par les Européens à partir de jeux qui étaient en Asie orientale, on arrive à la catastrophe actuelle. Vous voyez des gamins aujourd'hui à la frontière du Soudan et du Congo qui ont tous des kalachnikovs et qui abattent tous les éléphants, tous les hippopotames, toutes les girafes.
Mais pour revenir un instant sur la différence entre guillemets spécifique de l'humain, Gilbert, ce que vous dites est très frappant pour moi qui ai beaucoup lu ce philosophe qui s'appelle Bergson, qui a inventé la notion d'homo faber pour la première fois et qui, dans les deux sources de la morale et de la religion, je ne sais pas s'il y a un lien, dit que l'origine de la religion, en tout cas d'une partie de la religion, ce qu'il appelle la religion close, la superstition, c'est au fond ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire le lancement à distance pour lequel l'homme est aussi intranquille et il invente la fortune,
bien sûr,
l'espoir que la flèche va atteindre l'animal. Et pour lui, c'est la superstition vient de ça, l'espoir que la flèche va atteindre la cible.
Il y a un mélange de tout ça, parce que quelle est la tranquillité initiale de tout le monde ? Est-ce chaque matin, est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Est-ce que je vais pas être mangé aujourd'hui, hein?
Ça, c'est tous les vivants partagent ça.
Bien sûr, qui ont les moyens de se poser ce genre de questions, bien entendu, hein. Je sais pas si une paramécie fait ça, mais beaucoup d'espèces peuvent faire ça.
Probablement. Une paramécie, en tout cas, a peur de disparaître, comme tous les vivants.
Je ne sais pas.
Enfin, en tout cas, elle est susceptible de mourir.
Elle est susceptible. Mais sur tout ce qui est effectivement, doué de conscience de ce qu'il est, bien sûr, c'est évident, hein. C'est très important. Et aujourd'hui, c'est terrible parce qu'on est passé par des phases où l'humain, je posais pas trop la question s'il allait être mangé. On revient à des choses aujourd'hui où des gens se demandent en France, est-ce que je vais manger aujourd'hui et donner à manger à mes enfants? Et puis on a vu les attaques récentes, par exemple, de requins en Calédonie ou à La Réunion, où là, la question peut se reposer à nouveau. Est-ce que je vais pas être mangé aujourd'hui selon le comportement que je vais bien sûr avoir?
Mais alors, Gilles Boeuf, donc, si on revient à cette définition et cette évolution de l'humain, on peut dire que, pour les archéologues, par exemple, les traces de l'humain sont rares dans des millions de traces végétales et animales. Aujourd'hui, il y a peut-être le risque que les traces de l'humain soient partout et qu'il n'y ait plus de traces du végétal et de l'animal. Comment est-ce que l'Homo sapiens, en est venu à dominer au point de menacer son environnement?
C'est intéressant. Je vais vous emmener à Totavel. Hein. Totavel, c'est le site en France, dans les Corbières, où on trouve le plus ancien français. Je mets deux guillemets chaque côté, on est bien d'accord. Hein. Vers 700 000 ans, des hominidés arrivent dans la vallée des Corbières. Et ce qui est fantastique, c'est que l'endroit qui est fouillé aujourd'hui par les archéologues, par l'équipe du professeur de Lemley, c'est évidemment un endroit qui correspond à des déchets de cuisine. Donc les humains qui s'y trouvent, les fragments d'humains qui s'y trouvent, ils ont été mangés. Hein.
Ils ont été mangés
par des humains.
Par d'autres humains.
Bien sûr, bien sûr.
Donc les fragments d'humains sont non pas des humains mangeurs, mais des humains mangés.
Mangés, il faut les deux. Et vous avez des faunes froides ou chaudes en alternance sur 700 000 ans jusqu'à 100 000 ans, selon le climat qui régnait à l'époque. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et c'est vrai que cet humain s'est singularisé beaucoup dès le moment où il a commencé à avoir des comportements très particuliers qui sont pas entièrement des comportements d'animaux. Par exemple, on va revenir à l'outil. Quand je vais avec Sabrina Kreef sur ces camps, c'est pas ces camps, mais ces natures sauvages de chimpanzés en Ouganda, on regarde une femelle qui va passer une heure à préparer un outil pour attraper un termite.
Voilà. Elle a sa technique, il y a des techniques du vivant, finalement.
Elle arrive à travailler un outil fabuleusement, elle prend son termite, elle s'en va en laissant son outil. Et je lui crie, mais ramasse-le! Et c'est là que l'humain est différent. L'humain va être capable, effectivement, de garder un outil. Ces fameux bifaces préhistoriques, avant qu'on ait ces armes de jet, on se les passait de père en fils, sur des très longues périodes. C'était l'outil essentiel. L'outil est l'arme en même temps. Et ça, c'est l'humain qui gardait ça, parce que c'était utile en permanence, y compris dans le futur.
Alors, est-ce qu'on peut dire, c'est fascinant ce que vous dites, même si on va creuser aussi le destin commun de l'humain et des animaux et des vivants aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que chez les humains, il n'y a pas seulement l'outil, mais la conscience de l'outil.
Oui, bien sûr.
La représentation, finalement, de l'outil dans sa permanence. Et que la construction de l'outil ne suffit pas à le définir, finalement. Il faut aussi sa gestion, sa représentation, sa socialisation.
Je vais revenir à Tapuerca en Espagne, à Burgos, on se parle tout à l'heure. Il y a un trou, la Cima de los Huesos, où il y a, je crois, 17 crânes humains et un biface qui n'a jamais servi. C'est totalement humain. On a mis des crânes d'humains là-dedans et un outil arme qui n'a jamais servi. La microscopie électronique est formelle, ça n'a jamais servi. C'est totalement symbolique, évidemment.
Bien sûr.
Alors qu'un outil, on s'en sert tous les jours. On l'emmène avec soi, on le peaufine au cours du temps. Et quand il est cassé, on est vraiment très embêté, il faut s'en refaire un autre.
Donc là, on l'envoie dans l'éternité avec son outil, comme dans les tombes, où l'outil accompagne l'humain dans l'au-delà. C'est le lien aussi avec le sacré. On s'aperçoit en vous écoutant, Gilles Boeuf, autre préjugé qu'il faut peut-être critiquer, parce que si on veut penser la technique, faut en penser la vraie nature.
Bien sûr.
La technique fait partie du vivant humain. C'est pas du tout quelque chose d'extérieur au vivant, la technique.
Absolument.
C'est fait partie de ce vivant-là. Sinon, on réintroduit une coupure. Si on dit la technique est une barbarie ou la technique n'a rien de vivant.
Jamais je dirais une telle ineptie. Il y a beaucoup d'animaux qui ont des techniques, hein, des oiseaux en particulier, des mammifères, bien sûr, qui utilisent...
C'est-à-dire des détours pour atteindre un but vital.
Complètement. Ça, c'est sûr que c'est connu depuis très longtemps. Hein. Et plus on travaille en éthologie sur le terrain avec des poissons, avec des mammifères, des oiseaux, plus on se rend compte effectivement qu'ils sont capables de concevoir et d'utiliser des outils. La question par rapport à l'humain, c'est que l'humain, il l'emmène partout avec lui, il part avec et il s'en sépare pas. Hein. Rappelez-vous cet homme retrouvé récemment entre l'Italie et l'Autriche, qui était sur ce glacier, que le glacier a rendu récemment. Il a ses outils très 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 bien conservés autour de lui.
Puis à l'époque, dans toute l'histoire des humains, finalement, il y a des outils, des colliers aussi, des bijoux, des parures qu'on emporte avec soi dans l'au-delà. Mais il y a aussi aujourd'hui dans les migrations des humains, qui ne sont jamais entièrement animales, les hommes partent avec des téléphones portables, et ça fait partie des techniques vitales aujourd'hui, Gilles Boeuf. Donc ceux qui critiquent l'humain en le coupant du vivant ou en lui reprochant tous les maux, au fond, est-ce qu'ils n'ont pas tort est-ce qu'ils ne devraient pas plus penser aussi à la technique aujourd'hui?
Si, bien sûr, mais laquelle? Moi, je suis encore mon maître, c'est Edgar Morin, qui dit en fait, devant la frénésie actuelle de découvertes scientifiques et technologiques, quel est le mode de pensée qui accompagne ceci? Nous sommes encore dans la barbarie et l'enfance. La question, c'est pas d'inventer une nouvelle technologie, c'est quel usage on va en faire par la suite.
Absolument.
Et c'est absolument que dans la pensée moderne, nos ingénieurs soient formés. Par exemple, je prends un exemple précis, tout bête. Quand vous mettez sur le marché une molécule chimique, un pesticide, je prends la chlordécone, dramatique sur les îles de la Martinique et de la Guadeloupe, ce produit n'aurait jamais dû être sur le marché. On sait dès le départ, 8 atomes de chlore, que jamais le vivant ne pourra le dégrader. On peut pas imaginer faire des produits comme ça qui vont rémaner pendant des dizaines ou d'années ou des siècles.
Sans parler des déchets nucléaires, Gilles Boeuf, qui on va parler pendant des centaines de milliers d'années pour nous avoir éclairés pendant un certain temps, voire aussi des usages militaires. Mais justement, Gilles Boeuf, si l'intérêt pour le biologiste, au fond, il ne s'agit pas de condamner la technique, mais comme vous disiez, d'en mesurer les usages, mais des usages qui ne se limitent pas à l'utilité étroite des humains à tel moment donné, à court terme, par exemple, pour améliorer le rendement d'un champ ou d'une usine. Il faut envisager tout le milieu, et là, on rejoint l'humain comme vivant. La technique fait partie, mais alors fait partie d'un environnement global.
Frédéric Worms, c'est essentiel, ceci, c'est très important, mais dès le départ, dès que je vais faire quelque chose, il faut voir comment avance la technologie et la connaissance scientifique, en fait. La connaissance, elle avance sur des connaissances fondamentales, ce sont les prix Nobel. Et puis, ensuite, l'ingénieur en tire des particularités qu'il va appliquer pour développer, faire des développements industriels. Et c'est là qu'il faut se poser la question sur, effectivement, une culture de l'impact. Mmh. Je vais le faire, qu'est-ce que ça va entraîner? Et surtout, dès le départ, comment je vais m'en débarrasser par la suite quand je vais vouloir effectivement arriver à l'époque des déchets? Dans la nature, il y a des déchets.
Même avant les déchets, il peut y avoir plein d'effets secondaires d'une technique.
Bien sûr, sur les produits chimiques, c'est évident, bien sûr.
Voilà, parce que si on pense qu'aux déchets, on limite aussi les effets pervers, l'environnement complexe de chaque technique humaine.
Mais c'est important d'y penser, parce que sans cette culture de l'impact, on arrive à la situation actuelle, en fait. Il y a des produits qu'il faut pas inventer, parce que de toute façon, ils sont beaucoup trop délétères pour l'environnement. Vous savez, dans la nature, il y a des déchets, mais il y a toujours un acheteur pour le déchet. La nature, elle peut faire des produits horriblement dangereux, un venin de crotale ou un venin d'abeille, ou de cône, mais elle sait les dégrader. Alors que nous, on a inventé plus de 100 000 molécules aujourd'hui qu'on ne sait pas dégrader et que le vivant ne sait pas dégrader. Ça, c'est complètement inconséquent.
Donc l'humain est au fond inventé l'inutilisable, ce qui ne peut plus être utilisé. Des déchets inutilisables, c'est une invention finalement dramatique.
Et totalement humaine.
Où l'ambivalence du vivant disparaît.
Et il s'est empoisonné. Il empoisonne lui et tous les animaux aussi, bien sûr, qui sont autour de lui. Et puis tous les écosystèmes, bien sûr.
Mais alors Gilles Boeuf, vous êtes biologiste, professeur de biologie. Vous avez beaucoup de responsabilités. Et heureusement aujourd'hui dans des instances qui réfléchissent ou qui agissent sur ces sujets. Est-ce que vous vous sentez malgré tout assez consulté, j'allais dire, dans les réflexions actuelles sur la science, sur la technique, sur l'économie? Est-ce que le biologiste ne devrait pas être consulté? Le biologiste au sens large?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il ne devrait pas être plus consulté encore?
Alors, j'aurais mauvaise grâce à dire que ça s'améliore pas. Ça s'améliore.
Ça s'améliore quand même.
Il y a 20 ans, ça se faisait pas du tout.
Parce que là, j'ai repris, grâce à France Culture, un certain nombre d'articles depuis 2010.
Oui.
Et on voit que ça fait longtemps que vous alertez. Mais aujourd'hui, les gens vous écoutent un peu plus.
Oui, par exemple, alors, encore une fois, je suis invité par le MEDEF l'an dernier sur une question, sale temps pour la planète. Mmh. Alors aujourd'hui, vous savez, le sale temps, il est pas pour la planète, il est pour les humains qui sont dessus. Et cette année, là, il y a moins d'un mois, j'ai fait la conférence inaugurale de Sciences Po Paris. Pour que tous les politologues invitent un écologue, c'est que les choses sont en train de changer quand même.
C'est mauvais signe qu'on vous invite partout. Alors vous le prenez plutôt comme un mauvais. C'est bon signe pour vous.
Pas pour moi.
Mais ça veut dire que les gens prennent conscience d'un danger.
Je crois. Et ils ont envie d'avoir des avis autorisés. Bon, faisons attention à ce qui est du greenwashing. Hein. Ça peut être sympa d'inviter Gilles Boeuf parce que c'est bien, il est gentil, on l'aime bien. Mais c'est plus profond que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. Au niveau du monde de l'entreprise, par exemple. J'étais au Danemark la semaine dernière avec un échange curieux avec des scientifiques, des écolo-extrémistes et des politiques. On s'est rendu compte que chaque communauté n'arrive pas à faire changer les choses suffisamment.
Si on les prend séparément.
Voilà, exactement. Et il manquait pour moi le volet entreprise. Je pense qu'il faudrait les quatre. Et on refera d'ailleurs un colloque en mars prochain à Copenhague. Mais c'est intéressant d'y réfléchir ensemble parce que là, il y a des choses qu'on peut faire avancer.
Alors, c'est amusant parce que je réentends le biologiste. On croit que vous faites de la sociologie, de la science ou de la politique, mais peut-être vous êtes toujours biologiste.
Ah, bien sûr.
C'est-à-dire, vous dites, au fond, pour comprendre le milieu humain qui est complexe, faut voir, chacun en a un petit bout. L'entreprise voit telle ou telle utilité vitale. L'écolo aussi. Mais tout le monde redevient vivant aujourd'hui. On a l'impression que les humains se redécouvrent comme des vivants.
C'est fondamental. Hein. Je pense que si on n'admet pas aujourd'hui que nous sommes dans la nature, nous sommes la nature, on n'est pas à côté, on ne s'en sortira pas. Donc c'est vraiment, vraiment pour moi fondamental. Parce que dès le moment où on admet qu'on est dans le système vivant, on va comprendre une chose. Dès qu'on agresse ce vivant, on s'auto-agresse. Ce qui est un peu stupide pour une espèce qui elle-même s'est baptisée sapiens.
Certes, mais qui s'est baptisé sapiens justement en prétendant se couper un petit peu de son appartenance au vivant et de cette appartenance à la nature.
Quand Linné invente ce mot, c'est 1758. Il a déjà...
Dans sa classification.
Oui, appelé des animaux atrox, férox, horribilis, horridus, goulot, le glouton, et nous, on les appelle sapiens. Quand on ouvre notre journal aujourd'hui, qu'on écoute les nouvelles ici sur France Culture ou France Inter, c'est pas le vocable qui viendrait le premier à l'esprit, hein. Les relations entre les garçons et les filles, pour commencer. Donc ça veut dire que c'est ce fait de nous regarder de l'extérieur, mais c'est nous qui choisissons les mots. Puis à l'époque, il y avait un ego monstrueux. Linné dira quand même un jour, Dieu a créé, l'inné a organisé. C'est un bel ego, hein.
C'est vrai, Gilles Boeuf, et peut-être il faudrait réfléchir, et peut-être vous pouvez nous éclairer aussi sur cet aspect normatif des classifications, parce que Sapiens, c'est peut-être très beau, mais Férox, c'est très critique, enfin, ça devient la bête féroce. Mais il faut peut-être se rappeler aussi que appeler l'homme Homo sapiens, ça paraît aujourd'hui énorme par rapport aux animaux, mais par rapport au dualisme traditionnel, à l'âme coupée du corps, et par rapport à la théologie, c'était déjà une révolution, c'était déjà faire de nous quand même par quelque chose comme un animal, malgré tout.
On est d'accord, Rolez-Evigny dans La mort du loup, hein, sublimes animaux, mais c'est vrai que on est vraiment sur quelque chose où des grands moments d'émotion nous ont ramenés à une proximité avec l'animal. Mais aujourd'hui, la vie moderne des gens hors de la nature, dans les villes, les a un petit peu coupés. Moi, je vois des enfants en ville qui ont jamais vu, effectivement, un animal. Ils savent même pas que le lait, ça mène des vaches, hein, que les radis, ça pousse pas en botte. Donc, c'est vrai que là, il y a un énorme effort à faire de reconnexion de l'humain avec la nature. Et dans la nature, bien sûr, il y a les animaux.
Est-ce qu'il y a de très beau et de très cohérent dans ce que vous dites, Gilles Boeuf? Et il n'y a pas tant de gens qui articulent les deux. C'est que d'un côté, vous dites, il faut se rappeler que nous sommes des vivants, des animaux. Bien et sûr. D'un autre côté, on a le droit aussi de dire, Gilles Boeuf, que s'il faut sauver la nature, c'est parce que c'est vital pour les humains, qu'il faut aussi sauver les humains. Malgré tout, il n'y a pas de, il y a aussi,
je dirais qu'éthiquement,
une légitimité des humains à se sauver eux-mêmes.
Je veux tout sauver. Le vrac, ça veut dire l'humain dans ce système vivant, avec les autres. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on me dit l'humain va détruire la vie? Ça tient pas debout. Les bactéries, elles étaient là bien avant nous, elles seront là bien après nous. Mais par contre, les animaux auxquels on pense en permanence, ceux-là, ils vont partir avec nous. Donc c'est vrai que c'est... Pourquoi est-ce qu'on a tué? Pourquoi Frédéric Worms, on a tué en 40 ans entre 51 et 97% des girafes selon les pays africains? Dites-moi pourquoi. Il reste 7% des lions.
Ce que j'entends dans votre pourquoi, c'est un pourquoi très profond. Pourquoi est-ce qu'on s'est aussi porté tort à nous-mêmes? Parce que sinon, si vous voulez, la question historique, empirique du pourquoi, c'est par volonté de puissance, par développement du luxe, du tourisme. Enfin, on peut comprendre des raisons politiques, mais vous interrogez les raisons vitales.
Totalement.
Il n'y a pas de raison vitale de détruire ce qui est vital pour nous.
Et en plus, je dirais une chose qui est très forte pour moi, c'est que ce sont des mâles qui font ça. C'est pas les femmes qui tuent les éléphants et les girafes. Hein. Ça, c'est très important aussi à rappeler. Mon ami Franck Courchamp, qui est un très bon écologue à Orsay, disait, si on continue comme ça, le seul gros animal mammifère qu'on aura demain, c'est la vache.
C'est très intéressant parce que ça rejoint des rapports de force entre les humains. Nous allons ensuite discuter de la manière dont l'humain peut accepter ses responsabilités nouvelles. Aujourd'hui, vous avez co-dirigé un livre intitulé « L'homme peut-il accepter ses limites ? Comment l'homme peut-il exercer ses responsabilités ?» Mais bizarrement, peut-être un moment de silence entre ces deux phases de notre conversation, puisque vous nous proposez les sons du silence, Gilles Boeuf.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did.
France Culture, matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir, animal humain, un destin commun avec Gilles Boeuf, biologiste, auteur ou co-directeur notamment d'un ouvrage récent, L'homme peut-il accepter ses limites? Nous allons parler de la responsabilité de l'humain dans ses relations avec les animaux, comment y répondre éthiquement, politiquement, peut-être aussi subjectivement, se rappeler un peu ces relations. Mais Gilles Boeuf, c'est paradoxal de commencer par les sons du silence, Simon & Garfunkel. Est-ce qu'il y a un lien pour vous? Est-ce que cette chanson évoque quelque chose des relations entre les humains et les animaux?
Je ne pense pas qu'elle ait été écrite là-dessus, mais pourquoi pas?
Ouais.
On a souvent dit la richesse du silence. Souvent, le silence permet de beaucoup mieux réagir en second temps. De plus en plus maintenant, d'ailleurs, des gens s'arrêtent avant de prendre une décision importante. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de civilisations. J'étais avec des gens du Bhoutan il n'y a pas tellement longtemps. On ne démarre pas une réunion sans d'abord être silencieux pendant un certain temps.
Est-ce que vous pensez que c'est parce que l'homo faber dont on parlait, dont l'expression a été inventée par Bergson, il l'a aussi critiqué comme homo loquax, l'homme bavard, l'homme parleur, pas seulement parlant, parce que le langage est une très belle chose, mais parleur, qui oublie à la fois le silence de la nature, le silence de la mer, disait aussi un autre écrivain, la voix des animaux aussi, d'autres manières de s'exprimer peut-être. Est-ce que l'humain doit réentendre les voix de la nature?
Complètement. Il y a un merveilleux auteur américain qui s'appelle Bernie Krause qui a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Orchestre Animal. Et on a fait une très belle exposition à la Fondation Cartier il y a 2 ans sur ces questions-là. Il montre aujourd'hui dans une toile de son, hein, des sonogrammes enregistrés dans l'océan ou dans une forêt tropicale par exemple, que plus l'humain a affecté le milieu et plus il y a des trous dans la toile en fait. Il y a des fréquences qui n'existent pas.
En tout cas, c'est un silence mortel si j'ose dire, un silence sombre.
Chaque animal qui va crier ou s'exprimer ou hurler ou chanter le fait à un moment précis au sein d'un énorme orchestre symphonique. Et il finit par lire sur un enregistrement qu'il a fait exactement au même endroit sur 50 ans, la pollution ou les désordres. Non pas par la vision, mais par le son. Et il raconte ces forêts aujourd'hui où vous avez encore des oiseaux, mais ils ne chantent plus. Et ça, on a totalement sous-estimé ça. Et il part en fait au départ de géophonie, les sons d'une falaise qui s'écroule, d'un volcan qui crache, hein, d'un tsunami ou de vagues dans l'océan que vous évoquiez, là, Frédéric Worms à l'instant. Il parle ensuite de biophonie quand la vie apparaît. Il a été capable d'enregistrer des sorties de virus, de bactéries avec des sons incroyables. Et enfin, d'anthropophonie. Et il nous montre qu'il y a aujourd'hui des grandes villes où il n'y a plus que de l'anthropophonie. Et là, le mal-être est total.
Et alors, c'est là qu'on découvre l'un de vos grands thèmes aussi, Gilles Boeuf, avant de revenir sur les relations politiques, pour préserver ça, que pour vous, la biodiversité n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est vital pour les humains. Qu'est-ce qu'on perd quand on perd la biophonie, quand on perd la beauté, quand on perd la beauté, j'allais dire, et la diversité de l'expression des animaux dans le vivant?
C'est ce que dit Bernie Krause. Non seulement on perd plein de choses, mais on se rend même pas compte de ce qu'on perd. Ça, c'est absolument dramatique. Mais c'est simplement toute l'harmonie de la vie, finalement, hein, parce que le son a toujours été extrêmement important pour les humains. On est quand même un animal qui fait de la musique, et ça, il faut quand même pas l'oublier. Alors, on a voulu ramener cette musique à des sons de la nature. Il y a pas mal d'artistes modernes, quand on a inventé les synthétiseurs, hein, on a commencé à avoir pas mal de musiciens qui sont intéressés à des sons de la nature et qui les ont utilisés dans...
Paradoxalement, en apparence, parce que c'est un progrès technique qui ramène à l'origine naturelle, finalement,
bien sûr,
au lieu de les opposer.
Les animaux chantent, hein. Puis vous avez des choses incroyables que la nature a fait. Par exemple, vous avez 2 grenouilles du Cambodge. Elles sont exactement similaires à l'œil. On voit aucune différence. Hein. On mesure la distance entre le point bleu et le point jaune. Vous les faites chanter, rien à voir. Elles se reconnaissent pas d'ailleurs. Hein.
Comme entre les humains finalement.
Bah oui. Et il montre aussi que le rock peut pas naître chez des pygmées baka et que les musiques sont très liées aux populations et aux endroits de vie où ils se trouvent. Donc c'est vrai que l'intégration des sons dans la vision, qui est vraiment l'humain, c'est le toucher et la vision, mais on a plein d'autres choses aussi sur les sons. Et c'est vrai que pourquoi c'est vital? Tout simplement parce que nous ne mangeons que du biologique et surtout, ce qu'on oublie encore plus, on ne coopère qu'avec du biologique. Regardez aujourd'hui ces variations de notre fameux microbiote, hein, les bactéries du tube digestif. Il y a à peu près 300 maladies nouvelles en France depuis 1940. Si j'enlève celles qui viennent de l'âge, on a des pathologies qu'on n'avait pas avant.
Et donc un peu du progrès de la médecine aussi,
oui, bien sûr,
paradoxalement.
Bien sûr. Bah, on a gagné 35 ans en 150 ans.
Voilà. Et donc aussi des nouvelles maladies au passage.
Voilà. Exactement. Et puis ça fait 10 ans qu'on ne vit pas plus longtemps. Donc ça, il faut s'interroger là-dessus dans les limites de l'humain aussi. Et puis aussi, ce qui est clair, c'est que j'enlève des maladies qui sont liées au climat qui change, à la biodiversité qui évolue. Le reste, c'est lié à tout ça, en fait. Ça veut dire qu'on a de nouveaux vecteurs qui se transportent dans des zones où ils n'étaient pas auparavant. Et ce vivant, il est Il nous alimente et surtout, il nous entretient en relation intime avec l'extérieur. Et quand je vois effectivement les projets actuels d'amener l'humain à des âges, on ne tient pas suffisamment compte des bactéries symbiotes. Ça se fera pas sans elles, hein.
Alors, ce qu'il y a de très important aussi dans votre manière de décrire les choses, Gilles Boeuf, c'est que, effectivement, on pourrait dire, d'un côté, il y a ceux qui veulent couper l'humain de la nature, de l'autre côté, des humains qui voudraient ramener les humains à la nature. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. On s'aperçoit que, pour percevoir le chant des animaux, il faut des musiciens humains, peut-être très fins, très, comme des messiens qui nous font entendre les oiseaux dans la grande musique. Et donc, au fond, c'est aux humains de redonner sens aussi aux vivants. Il faut pas les réduire aux vivants, mais plutôt, leur permettre d'exprimer, de protéger le vivant. Comment est-ce que les humains peuvent, de manière humaine, inévitablement humaine, respecter les animaux, leur rendre justice?
On a trois défauts à
les protéger.
Oui. Trois défauts. L'imprévoyance. L'imprévoyance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'inventer quelque chose sans du tout imaginer quel sera le futur. Infiniment plus délétère qu'à court terme l'action que ça va apporter. Le second, c'est l'arrogance. L'humain est toujours meilleur que les autres. Alors que souvent, quand je compare les performances, on est assez minable, finalement. Mais c'est normal, puisque de toute façon, on a été fait pour certaines choses. Qu'un cachalot soit meilleur que nous en apnée, ça c'est absolument évident. Qu'un lion court plus vite, et je parle pas d'un thon en mer, c'est vital. Si le hibou fait du bruit, il mange pas. Hein. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et enfin, c'est surtout aussi, bien sûr, la cupidité. Et je crois que cette... Alors, les femmes sont beaucoup moins arrogantes que les hommes.
Alors, ça fait deux fois que vous faites une différence entre les humains masculins et les humains féminins.
J'y tiens.
Dans leur rapport au vivant.
La cupidité, malheureusement, elle est autant masculine que féminine. Ou alors, bah, écoutez, elle sera amoureuse d'un type cupide, donc ça arrange pas les choses. C'est vrai qu'il faut tuer imprévoyance, arrogance et cupidité.
Oui, mais ça, Gilles Boeuf, vous êtes biologiste. Bien sûr, il y a la dimension morale du vivant humain. Ce sont des torts, disons, moraux. Et en même temps, on a besoin d'institutions aussi politiques pour répondre. On n'a pas besoin d'une réforme morale de l'humanité, c'est sûrement fondamental. En nous repensant dans le vivant aussi, peut-être la diversité des humains, masculin, féminin, puis les enfants, les vieillards, les malades, font partie des humains. Mais au-delà de cette réforme morale, politiquement, Gilles Boeuf, comment est-ce qu'on fait ?
La politique doit nous inciter infiniment plus qu'elle ne le fait à la sobriété. Je crois énormément à la sobriété. Vous savez, on joue que sur l'utile. On me dit souvent, voilà, je sauve cette espèce-là parce qu'elle sert à quelque chose. Ça n'a pas de sens. Frédéric Worms, depuis ce matin, pensez à ce que vous avez fait, qui sert absolument à rien et qui vous a apporté du bonheur ou du plaisir. Discutez avec moi, par exemple.
Ah ben, ça sert à beaucoup de choses.
Ah justement, c'est ce que nous, on en conclut dans une analyse de la situation.
Il faut reconnaître que ce que beaucoup de gens pensent être un luxe,
mais bien sûr,
c'est-à-dire de l'inutile, est absolument vital.
Doit pas absolument pas se mettre uniquement sur le terrain de l'utilitarisme à court terme. Et le court-termisme est catastrophique, en fait, à ce niveau-là.
Donc vous avez absolument raison, Gilles Boeuf, sur ces enjeux, mais je me permettrais d'insister, de dire que c'est encore un peu, disons, des objets moraux, nous inciter à la sobriété, à la culture éthique, mais d'un point de vue vraiment politique. Certains disent qu'il faut des institutions où l'on représente les droits du vivant, les droits des animaux. Michel Serres a parlé à un moment de contrat naturel. Est-ce que vous êtes pour cette obligation juridique? Quel type d'obligation juridique pour arriver à ces réformes morales? Parce que vous dites inciter à la sobriété.
Oui. Vous savez, si c'est efficace dans le sens que je défends ici, pourquoi pas, hein? Mais... faut faire attention un petit peu à ce qu'on fait aussi. Je suis pas contre du tout, au contraire, hein. Je milite dans beaucoup de mouvements, justement, d'éthique animale, du respect de l'animal. Donc, si on a effectivement un secrétaire d'État aux droits de l'animal, ça
serait beaucoup
quand même
le
pas
demande.
Mal, hein. Bien sûr. Et je suis tout à fait pour, bien évidemment. La question, c'est que je voudrais que ça vienne au sein de chacun. Ça veut dire que chacun doit se dire, voilà. Parce qu'on ne pense toujours qu'aux chiens et aux chats, en fait, à la maison, hein. Et puis à la ferme, on pense aux porcs, on pense aux poulets. On croule sur les milliards de poulets aujourd'hui. Et pourtant, c'est un animal qui est beaucoup plus malin que ce qu'on pourrait croire, le poulet. Parce qu'on les prend tous pour des abrutis.
On oublie leur subjectivité, leur vitalité.
Vous savez, aucune espèce vivante, quelle qu'elle soit, même des végétaux, des arbres, ne serait là s'ils étaient stupides. Voilà, ça, il faut s'en imprégner. Ils sont là parce que ils ont été capables de supporter tous les aléas de la vie. Plusieurs fois, la vie, effectivement, a été quand même très menacée. Donc, ce respect vis-à-vis de ce qui n'est pas humain est absolument fondamental pour moi. Et on se sauvera pas tout seul. C'est Hubert Reeves qui disait, il n'aurait rien de plus inhumain qu'un monde peuplé uniquement d'humains.
Mais alors, je reviens à ma question, parce que j'entends toutes ces harmoniques morales, j'allais dire, le respect, la sobriété. Mais comment concrètement, par exemple, interdire telle ou telle pratique cruelle et pour le coup inutile en plus, dans l'élevage industriel, ou mettre la limite, puisque vous parlez beaucoup des limites. Hein.
Oui.
L'homme peut-il accepter ses limites? Comment l'homme peut-il instituer ses limites?
Je vais être très clair. Si vous consommez la viande d'un animal massacré, vous mangez du stress. Mmh. Et ça ne vous fera pas de bien. Je crois que c'est une petite histoire sur des langoustes. Toute petite histoire. Avec
on
des
mange
marins
du
pêcheurs.
Stress, on mange de la souffrance oui, oui. qu'on inflige. J'étais on mange de la souffrance.
Des marins pêcheurs, exactement. Et ça, ça vous fait forcément du mal quand vous mangez cette viande.
On finit pas, ça finit par se venger.
Ah, beaucoup. J'aime pas trop le mot venger, mais ça finit par faire avoir retour. Des effets délétères sur nous. Mmh. Avec des marins pêcheurs du port de Camaret-sur-Mer à la pointe finistérienne qui pêchaient des langoustes. Ils récupéraient dans des casiers et ils les jetaient en les prenant par les antennes sur le pont du bateau et elles tenaient 2 mois en vivier. Je leur ai dit un jour, vous savez ce qu'on va faire? On va sortir ensemble, on va les prendre délicatement une
tout
par
doucement.
Une et les mettre dans un truc. Elles tenaient 5 mois en vivier et ils les vendaient à Noël au meilleur prix. Parce qu'ils avaient stressé une langouste. Ça veut dire que chaque fois qu'on respecte, et surtout aucune souffrance animale n'est supportable, ça n'a pas de sens, c'est évident. Ça veut dire que là, on tombe dans de la barbarie absolument terrible. Et ça, c'est des travers de l'humanité qui sont absolument exécrables. Mangeons, on va revenir à la consommation de viande, il faut en manger moins, de bien meilleure qualité, pas stresser lorsqu'effectivement on met fin à la vie de ces animaux. Et puis, je sais pas, moi je connais plein de paysans qui ont un profond respect, un profond amour pour leurs animaux, qui n'ont pas du tout envie qu'on les massacre comme on le fait quelquefois.
Ce qui est très important dans, là aussi, dans ce que vous venez de dire, il me semble, Gilles Boeuf, c'est la question de la limite. C'est-à-dire qu'au fond, vous n'êtes pas dans cette sorte d'alternative radicale du tout ou rien, de consommer ou pas consommer, d'ailleurs, mais consommer peut-être un mot qu'il faut éviter, parce que c'est déjà peut-être du côté de l'objectivation. On consomme un objet et pas, et peut-être que c'est tout à fait autre chose.
C'est comme le mot ressource, hein.
Le mot ressource, vous le critiquez aussi. Il réduit la nature. Voilà.
Est-ce que la nature est un lieu de ressources pour l'humanité? C'est une question. Je comprends que les gens s'interrogent.
Il y a un très beau sens du mot ressource, hein. On a besoin de ressources vitales.
Non, mais moi j'utilise aussi. Mais je comprends que des gens s'interrogent là-dessus.
Ben, c'est ressources en un sens réducteur, disons.
Ressources vivantes de la nature, ressources minérales de la nature.
En même temps, la notion de ressources est fondamentale. Quand on va mal, on a besoin de ressources.
Mais bien sûr. Je vous dis, moi je l'utilise.
Ça dépend du sens. Mais alors, comment est-ce qu'on trace les limites? Parce que vous dites, l'homme doit accepter ses limites. C'est la première étape, peut-être morale, justement. Et puis après, qu'est-ce qu'on doit faire pour respecter des limites? Pour par exemple dire, bon, là, vous avez pu conseiller tel pêcheur, mais si vous étiez ministre de la pêche, vous auriez à instituer une règle, disons. Ou si vous étiez ministre des animaux, justement, quelle serait votre première mesure? Monsieur le secrétaire d'État, Gilles Boeuf.
Un énorme effort d'éducation à tous les niveaux. Ça commence à l'école maternelle et ça continue à l'école nationale d'administration et l'école polytechnique. On est bien d'accord. Un énorme effort d'éducation sur ce respect absolument fondamental et indispensable du vivant non humain. Ça, c'est très. Je veux défendre autant les arbres d'ailleurs que les animaux.
Bien sûr.
C'est clair. Et ça, c'est très très important. Parce que dès le moment où on va entrer dans ce jeu particulier, vous savez, on vit un double problème aujourd'hui. C'est la démographie du seul humain. Et quand on fait la courbe actuellement de l'effondrement du sauvage d'un côté et de l'explosion de l'humain avec les animaux domestiques, c'est assez effroyable. Juste 2 chiffres. Il y a 10 000 ans. Quand on arrête de bouger, les femmes font beaucoup d'enfants.
Quand on se sédentarise.
Voilà,
quoi, en fait.
On invente agriculture et élevage. Je prends que les mammifères. Nous sommes à peu près 0,1%, les humains de l'époque, 5 millions d'humains, avec les mammifères déjà domestiqués, le chien, le chat, les moutons, les cochons, de tous les 5000 espèces de mammifères. Aujourd'hui, Frédéric Worms, on est 90%. Donc évidemment qu'on a un impact extrêmement important. Et c'est là que, justement, ce respect vis-à-vis de l'animal sauvage doit autant exister que de l'animal domestique. Et là, sur les lois, c'est pas clair. L'animal est toujours un meuble pour le droit français.
Donc il y a quand même des changements à instituer.
Ah oui,
vous dites qu'il faut pas vivre seulement entre humains, finalement, entre nous, sur cette terre, du coup, dévastée.
On serait bien malheureux.
Comment est-ce qu'on peut, repeupler aujourd'hui? Il y a un rythme effrayant de la perte d'espèces. Ça s'accélère à une vitesse inouïe.
Terrible.
Est-ce qu'il est encore temps de...
Oui, bien sûr. Pour moi, il est toujours temps de faire quelque chose. Je dis souvent, il est trop tard pour être pessimiste. Il fallait qu'on le soit avant.
Ouais.
Nous sommes 8 milliards demain, ça c'est clair. On a effondré pas mal de ressources. Alors, les ressources vivantes, ça devrait être génial. On peut les exploiter dans le bon sens du terme, au niveau de ce que le vivant peut renouveler chaque année. Malheureusement, on surexploite. On dissémine tout partout. On amène un bateau qui quitte Rotterdam avec 300 000 tonnes d'eau de mer et vous relargue ça à Oman. On peut pas continuer comme ça. On dissémine, on détruit, bien sûr. on surexploite. Et puis enfin, bien sûr, ce qui est très clair, c'est que il y a beaucoup, on pollue partout. C'est ça qui aujourd'hui doit être complètement pris en main par l'humain. Parce que chaque fois qu'on fait ça, on s'auto-fait du mal à soi aussi. Ça, c'est vraiment stupide, hein.
Et alors, justement, ça me paraît très important de comprendre comment la préservation de cette biodiversité, disons, globale, améliore aussi le milieu de vie des humains et même nos modes de vie, nos qualités de vie, toutes notions qui sont très importantes. Vous avez écrit sur la biodiversité qui va jusqu'à la cité. C'est la cité, c'est dans tous les sens.
Mais bien sûr.
Sens très concret de la ville.
Complètement.
Des trottoirs. Comment est-ce que...
Il faut ramener du vivre en... Vous savez?
On peut prouver cette utilité.
Des chiffres très clairs. Les îlots de chaleur. Hein, vous allez atteindre, si Paris, effectivement, dans les prévisions actuelles, on peut imaginer des vagues de chaleur largement au-dessus de ce qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, entre Jardin des Plantes, en août 2003, hein, l'air canicule très forte qu'on a eu en France, et les rues à 200 mètres, il y avait 7 degrés d'écart, parce qu'il y avait des arbres chez nous. Gardons des arbres! Ça amène de l'humidification et ça gère la question thermique. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec mes amis de la ville de Paris? On réfléchit à mettre les gens, les personnes âgées, les enfants dans les écoles qui sont libres l'été avec des arbres, sans bitume. Repeignons aussi tous ces systèmes-là avec des couleurs différentes, beaucoup plus claires.
Je vais vous poser une autre question un peu globale et un peu massive. C'est comment est-ce que on peut améliorer la qualité de vie des humains en passant aussi à travers le vivant par une qualité de vie, j'allais dire sociale, par une qualité de vie au travail, par une qualité de vie dans les relations humaines, par éviter aussi les conflits, parce qu'on a l'impression que la raréfaction du vivant rend les humains plus violents les uns avec les autres aussi.
Bien sûr. D'ailleurs, Edgar Morin rappelait récemment ceci, il disait en fait, chaque fois que l'humanité revient à la barbarie, qui trinque en premier? Les femmes, les enfants et les animaux. Et c'est Gandhi qui disait quand même qu'on juge la qualité d'un peuple à la façon dont il traite les animaux. Et je vais revenir encore aux femmes que je défends toujours. Il disait, élever un petit garçon, c'est élever une personne. Élever une petite fille, c'est élever une famille. Et je pense que les femmes ont une sensibilité sur cette question-là.
Alors ça, vous y êtes beaucoup revenu.
Bien super.
Est-ce que vous ne pourrez pas vous reprocher, certaines vous le reprocheront, d'essentialiser la femme en disant, il y a des qualités essentiellement féminines qui sont plus proches du vivant, des animaux. Et puis, il y a des qualités essentiellement masculines. Est-ce que vous prenez comme des défauts? Il y a certains hommes qui vont les prendre comme des...
Si flinguer des éléphants et des girafes avec une arme à 300 mètres.
Mais c'est socialement construit. Est-ce que c'est biologique ou c'est social, cette sorte de virilité?
C'est une pseudo-virilité. Je prends les concours de pêche. Vous allez bien rigoler parce que en 1920, le gagnant, il pêchait un thon d'une tonne. Aujourd'hui, sa virilité, il gagne avec 140 grammes. Parce qu'on a massacré tous les gros poissons de la planète. C'est tout. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je le comprends pas. Alors, oui, si, je pense que les femmes ont des perceptions. Moi, j'ai rencontré des femmes africaines lors de la COP 21 à Paris. Elles avaient des perceptions des problèmes. Et puis surtout,
évidemment,
elles avaient des propositions de résolution des questions très différentes de celles des garçons.
Voilà, donc n'essentialisons pas, mais entendons toutes les voix.
Je ne veux pas essentialiser.
Et par exemple, pour revenir sur ce que vous disiez, moi, je suis très frappé de ce que vous venez de dire. J'ai l'impression, en vous écoutant, que très souvent... On animalise l'humain quand on veut le détruire et on se fait une conception de l'animal qu'on doit détruire. Donc souvent les humains qu'on veut exterminer, c'est d'ailleurs une étape. Vous savez, dans l'ONU, dans les étapes qui mènent au génocide, il y a l'étape 2 ou 3, tous les génocides, c'est l'animalisation de l'autre. Et on a l'impression que plutôt que d'animaliser les humains pour les détruire, il faudrait un peu humaniser les animaux pour les sauver.
Je sais pas s'il faut les humaniser, en tout cas, on les sauvera. En fait, il y a que nous qui pouvons les sauver aujourd'hui, malheureusement. Comme c'est parti là, c'est nous, on prend pas...
Une sacrée responsabilité.
Exactement, on a cette responsabilité-là. Mais nous, on se sauvera pas tout seul sans eux. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est extrêmement important.
Quand je dis les humaniser, ça veut dire les respecter, comme vous dites,
oui,
leur
bien
subjectivité,
bien sûr.
Leur redonner une vie subjective.
Bien sûr, moi ce qui m'a toujours gêné, c'est qu'on refuse la dignité à l'animal. Ça m'énerve considérablement. Alors, si ils n'en ont pas, la nôtre devrait dire que on aide des animaux à s'en sortir et puis on les respecte.
Merci infiniment, Yves.
Merci, Frédéric Worms.
Matière à penser, animal humain. Aujourd'hui, un destin commun avec et grâce à Gilles Boeuf, avec et grâce aussi à Delphine Baudet, Justine Vildé, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvilles, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous demain avec Virginie Maris. À demain.